Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Vous écoutez donc cette édition spéciale, la troisième de la journée, consacrée aux élections générales en RDC, notamment la présidentielle qui devra désigner le successeur du président Joseph Kabila. Joseph Kabila qui est au pouvoir depuis 2001. Nous avons nos correspondants en ligne, Abdourahmane Dia à Kinshasa et Thierry Kamboundi également à Kinshasa. Nous avons aussi en ligne Christian Lossa Kueno de Top Congo FM, il est le directeur, et Maître Joseph Dounia Rienzi, toujours en ligne de la RDC, et aussi ici à Washington, Idriss Fall, rédacteur en chef de VOA Afrique, et en ligne de George Washington University, toujours à Washington ici,
John Hopkins,
Mwemba Dizolele, il est professeur d'études africaines donc à John Hopkins University. Thierry, pour revenir à vous à Kinshasa, Thierry, parlez-nous de la CENI et de sa composition, parce que elle est beaucoup citée dans le fonctionnement ou le mauvais fonctionnement du déroulement de cette journée. Qui compose la CENI?
La CENI est composée de différentes composantes politiques qui représentent les forces en présence à l'Assemblée nationale. Son président est issu de la composante société civile. C'est ainsi qu'on avait décidé les députés nationaux, le feu de Malou Malou, Daniel Ngoï Moulunda et aujourd'hui Corneille Nanga, tous sont venus de la société civile dans la sous-composante confession religieuse. Ce sont donc les confessions religieuses qui sont une sous-composante de la société civile qui désigne le président de la CENI. Le vice-président vient de la majorité présidentielle. Ensuite, viennent d'autres membres du bureau, le rapporteur, qui vient de la première force politique de l'opposition. En l'occurrence, Jean-Pierre Kalamba, on en a parlé, il a été désigné par le groupe parlementaire UDPC allié, désavoué par son parti, mais il est toujours là, donc voilà. En dehors de Jean-Pierre Kalamba, qui est le rapporteur, donc le porte-parole de la CENI, il y a d'autres membres du bureau, le rapporteur adjoint, la questeur, etc., ainsi que les membres de la plénière de la CENI. Et dans le bureau, comme dans la plénière de la CENI, il y a et l'opposition, et la majorité, et la société civile. Donc, l'actuel bureau et la plénière de la CENI sont composés des gens de la société civile, de l'opposition, donc de l'UDPS, du MLC et de l'UNC, ainsi que de la société civile. Ce sont donc ces différentes forces en présence qui compose le bureau et la plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Les grandes décisions sont prises en plénière après délibération et assumées bien évidemment par le bureau de la CENI qui est chapeauté par Corneille Nanga qui en est le président.
Alors, professeur Mwemba Dizolele, vous avez entendu Thierry parler de la composition de la CENI. Est-ce que ça vous rassure sur son indépendance?
Non, pas du tout. La CENI n'a pas démontré quelconque preuve d'indépendance. C'est déjà là le problème. C'est-à-dire, nous parlons élection aujourd'hui, et nous parlons du cumul, si vous voulez, avec les votes. Mais en fait, l'élection, c'est un processus. Et en amont, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des problèmes d'indépendance de la CENI. Le comportement de Corneille Nanga, par exemple, qui n'a eu aucun mal à plusieurs reprises de s'afficher, par exemple, ici à Washington, avec le membre de la majorité présidentielle. Il n'a pas fait montre d'indépendance dans son approche, mais aussi il n'a pas fait montre, surtout, de conciliation et de concertation avec tous ceux qui ont été rés, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais les stakeholders.
Alors que Thierry semblait dire que les décisions sont prises en plénière, et donc ce n'est pas Nanga seul qui décide à la CENI, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Oui, la plénière dont il parlait, il pourra la décrire lui-même. Mais moi, je parle des concertations. J'ai observé les élections au Congo en 2006 et en 2011. Et déjà, on avait des problèmes à l'époque avec le fait M. l'abbé Malou Malou, même avec le pasteur le prophète Moulunda Ngoï. Mais tous ces deux prédécesseurs ont essayé, tant bien que mal, de concerter et de consulter les autres composantes. Donc, les autres composantes, c'est la société civile, ce sont les partis politiques. À l'époque de l'abbé Malou Malou, je crois une fois la semaine, il rencontrait tous les autres membres de la communauté, la grande communauté, c'est-à-dire les donateurs, la société civile, l'opposition et la majorité. Ce genre de concertation n'ont pas eu lieu cette fois et c'est ce qui nous a amené la machine à voter. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'inquiétude, comme j'ai dit avant, c'est puisque le processus est faible, le processus a été très fragile. Donc les résultats qui seront déclarés demain ou après-demain, c'est certainement dû, s'il y a des problèmes, à ces manques d'indépendance, à ces manques de consultation. Donc voilà.
Voilà. Ok, vous restez avec nous. On va revenir aux autres membres de notre panel. Mais permettez-nous de prendre la direction de Mbandaka pour retrouver Marie Zemangi. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Où est-ce qu'on en est ce soir à Mbandaka? Est-ce que le vote s'est bien déroulé? Qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle?
Oui, jusqu'ici, il faut dire que tous les bureaux de vote sont fermés, en fait, et puis et ils sont en train d'être transformés au bureau de dépouillement. Mais il faudrait également signaler que la journée, il a été observé quelques cas de réclamations des électeurs dont leurs noms ne sont pas apparus sur les listes affichées par la CENI. Donc c'est ce qui a créé un petit problème dans la ville de Mbandaka, mais aussi quelques agitations de quelques candidats et qui se cherchaient des voix en provoquant leurs adversaires politiques. Mais dans l'ensemble, les élections se sont déroulées normalement et à présent et à travers tous les centres de la ville de Mbandaka, on est en train de déployer les résultats.
Et un mot sur la mobilisation tout au long de la journée?
Pardon?
Est-ce que la mobilisation, où est-ce qu'on peut la situer?
Si toute la population était vraiment mobilisée, toute la population était mobilisée pour aller voter, et surtout que tout le monde entendait ces élections depuis longtemps, malgré ces reports, mais la date d'aujourd'hui, c'était vraiment une date marquable, une date historique pour les peuples congolais et surtout les habitants de la province de l'Équateur qui ont pris les bureaux aujourd'hui de vote ont pris d'assaut par cette population pour accomplir justement les devoirs civiques. Ils ont voté les présidents et les députés nationaux et les députés provinciaux. Et surtout avec la machine à voter, comme c'est la première expérience. En tout cas, toute la population était mobilisée et puis oui. Tout était passé normalement.
D'accord, merci infiniment. Merci beaucoup. C'était donc Marie Zemangi qui nous donnait son témoignage depuis Mbandaka. On va prendre la direction de Matadi pour retrouver Dani Kinda. Bonsoir Dani.
Bonsoir.
Alors, comment la journée s'est déroulée chez vous?
Oui, Matadi, c'est 365 km de Kinshasa, la capitale de la RDC. La journée s'est déroulée très, très bien. Dès 6 heures du matin, le bureau de vote était ouvert. Et le Matadien se sont rendus très tôt matin dans leur bureau pour essayer un peu d'accomplir leurs devoirs civiques.
Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le dépouillement, comme on l'a entendu tout à l'heure en ce qui concerne Mbandaka?
Ah oui, à l'heure qu'il est, c'est le dépouillement. Il y a le président du bureau et les agents électoraux, ainsi que les observateurs qui sont là, et les témoins des partis politiques. Nous assistons tous les journalistes au dépouillement de nombre de bulletins. Nous avons déjà terminé pour le présidentiel et maintenant nous sommes pour la députation nationale, donc provinciale. Et après la députation provinciale viendra le tour de la députation nationale. Donc on est encore là.
D'accord. Merci. Merci infiniment, Dani Kinda. Je rappelle que vous étiez en ligne de Matadi en RDC. Pour revenir à Abdourahman Dia, si vous êtes encore là, si vous avez...
Oui, je suis là.
Oui, avez-vous d'autres développements à votre niveau, d'autres nouvelles informations?
Je suis là au niveau d'un hôtel qui sert un peu de quartier général à oui. Martin Fayoulou également et nous avons eu l'information qu'il devrait faire une déclaration. Donc nous sommes là avec d'autres journalistes attendant qu'il s'exprime. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis sorti Mais il y a quand même quelques journalistes qui sont là. Nous l'avions croisé plutôt au niveau des observateurs de la Simoncelle. On ne savait pas trop ce qu'il faisait là-bas. Bon, il les a rencontrés et là, on attend une déclaration de Martin Fayoulou. On va attendre de voir ce qu'il va dire. Donc, je voulais juste dire que ce qui m'a marqué aussi, c'est un peu la mobilisation des jeunes. C'est un problème dans beaucoup de pays, y compris même les États-Unis. On dit que les jeunes ne s'intéressent pas toujours trop à la politique. Le Sénégal, que je connais bien également, où il a fallu des mouvements comme il y en a marre pour pousser les jeunes. J'ai vraiment constaté beaucoup de mobilisation auprès des jeunes. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter à tout cela.
Justement, une dernière question avec vous. On sait que durant la campagne, il y avait quand même assez de tensions dans les quartiers, des tensions concernant le report des élections, la campagne, la majorité, ça se chamaillait un peu à gauche, à droite. Est-ce qu'aujourd'hui, cette journée électorale, vous avez senti cette tension-là?
On l'a pas vraiment senti comme peut-être certains pourraient
le craindre.
Pouvaient le craindre quand on est parti dans des quartiers où il y a eu vraiment des problèmes de vote. Les gens étaient un peu énervés, mais ils tentaient de garder leur calme. Ils étaient là. C'était pas en tout cas la violence. Et j'ai pas vu de policiers agressifs ou en tout cas de tensions entre policiers et électeurs de notre côté. Il y avait des problèmes de vote. Certains voulaient vraiment voter. Ils étaient là depuis 5 heures du matin. C'est compréhensible. Mais ils étaient là, calmement. Ils espéraient que ça allait se décompter. Et donc, pour être honnête, jusque-là, je n'ai pas vu en fait de tensions. Bon, maintenant, ceux qui n'ont pas pu voter ou en tout cas qui attendent toujours de voter, c'est très compréhensible qu'ils s'énervent un peu, mais ou qu'ils s'énervent carrément. Mais on est là, la ville est calme, voilà quoi.
Oui, et donc vous attendez une déclaration d'un moment à l'autre du candidat Martin Fayoulou. On va revenir à vous, Christian Losakweno, si vous êtes là. Alors, Christian, pour parler de ces machines électorales, est-il possible de nous éclairer un peu quel est le rôle de ces machines? Est-ce qu'elles servent juste pour le vote ou est-ce qu'elles ont un rôle dans le décompte aussi des voix?
Il faut dire que la CENI a présenté pour la première fois ces machines il y a à peu près 15 mois. Ce sont des machines qui, un peu à l'image des machines à voter en Belgique, servent à faciliter les modalités de vote. Je m'explique. Vous arrivez lors des élections de 2006 et de 2011, il y avait eu dans certaines circonscriptions, particulièrement à Kinshasa, des bulletins de vote qui faisaient une cinquantaine de pages. Dans la circonscription de Lukunga, une des circonscriptions de Kinshasa, il y a plus de 600 candidats. Donc, il fallait consulter ce journal, choisir la page qui équivalait à son choix et cocher le nom du candidat choisi et l'insérer dans l'urne. La machine à voter a simplifié ce choix. Vous retenez le numéro de votre candidat président, vous notez son numéro sur la machine. De votre candidat député national, vous mettez son nom dans la machine, son numéro dans la machine. Même chose pour le candidat député provincial. Vous avez au préalable introduit un bulletin qui est en fin de compte une carte qui permet d'imprimer vos choix. Et une fois effectué votre choix, vous retirez cette carte de la machine et vous déposez cette carte dans l'urne. Cela est expliqué à la presse et un peu, mais malheureusement pas assez, il n'y a pas eu assez de promotion et de vulgarisation auprès du Congolais lambda, mais cela avait été expliqué ainsi depuis plus de 15 mois. Cela a valu un long débat sur l'utilisation du vote électronique, sur le mode de vote des Congolais. La loi y est passée, la loi électorale avait même été entre-temps un peu changée, mais cette machine à voter aujourd'hui, si elle pose encore problème pour ceux qui la voyaient pour la première fois, a été saluée par ceux qui l'a condamnée. Je cite en premier lieu Martin Fayoulou, qui a dit que cela s'est très bien passé. Je cite Félix Tshisekedi, qui l'avait lui, reconnu depuis plus d'un mois. Et évidemment, la question a été posée toute la journée aux auditeurs de Top Congo. Ceux de Kinshasa, ceux qui ont l'habitude des ordinateurs n'ont pas eu trop de problèmes. C'est vrai que ça a été beaucoup plus compliqué pour les autres. Et là, on pourrait dire que la CENI n'a pas assez vulgarisé ce moyen de vote.
Oui. Et donc, Idriss, on l'a vu, hein, peut-être, je ne sais pas si la machine a été victime du climat politique ou si la machine avait vraiment un problème, mais elle a concentré beaucoup d'énergie durant ces derniers mois.
Non, je crois que Corneille Nangaa, depuis le début, malgré Nikki Haley qui tirait sur la machine à voter depuis le Conseil de sécurité des Nations Unies, Martin Fayoulou, jusqu'à quelques jours des élections, était contre l'utilisation de la machine et appelé à imprimer des bulletins, mais de guerre lasse, lui-même ce matin, Christian vient de le signaler, a dit que ça s'est très très bien passé. Et quand même, il faut dire, on a eu beaucoup de témoignages d'électeurs à Lubumbashi, d'électeurs à Matadi, d'électeurs à Mbandaka, d'électeurs à Bukavu, qui ont dit que ça ne leur a pas posé de problème. Certes, mais par exemple, pour quelqu'un qui n'a jamais vu un écran d'ordinateur de sa vie, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire son nom, un vieillard qui a 75 ou 80 ans, peut-être ça peut avoir posé des difficultés. Mais et en plus, l'histoire de la machine à voter, c'est derrière nous. C'est-à-dire le débat, c'était avant. Maintenant, c'est derrière nous. C'est-à-dire qu'on ne peut plus refaire l'histoire.
Oui. Joseph Dounia, est-ce que la machine, l'histoire de la machine est derrière nous?
Oui, je pense qu'il faut considérer cette question du fait que les partenaires ne maîtrisent pas la programmation de la machine, même si on peut voter, mais on ne sait pas si le fait d'avoir appuyé, si c'est le nom de votre candidat qui sera retenu. Et donc cela, c'est un vrai problème. Mais évidemment, je voulais toujours revenir aussi sur l'indépendance
de la CENI
électorale qui peut être illustrée. Le manque d'indépendance qui peut être illustré par le manque de concertation. Par exemple, lorsqu'il faut reporter l'élection, ça apparaît toujours comme une surprise. Et la commission électorale indépendante paraît être toujours du même côté que le pouvoir, mais elle ne se concerte pas assez avec les autres partenaires, et il est toujours du même côté. Et donc, ça apparaît toujours comme une surprise, un fait accompli face aux autres partenaires. Il y a aussi les refus de l'aide extérieure qui devait être accepté par les autres partenaires, mais ça apparaît comme une question politique du pouvoir, et la commission s'y est accrochée en fait de bloquer les autres partenaires. Donc ceci montre qu'il n'y a pas indépendance vis-à-vis du pouvoir. Il y a aussi le fait qu'ils ont refusé l'aide logistique tout en sachant qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils n'avaient pas assez de moyens. Tout ça montre que il n'y a pas d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique actuel.
Merci, Maître Joseph Dounia Rienzi, en ligne de la RDC. Thierry, ce soir, après ce dépouillement, où est-ce que ce décompte va... Quelle est la prochaine étape?
Le dépouillement va être effectué dans différents bureaux de vote.
Oui, et
ensuite,
transmis.
Les résultats seront affichés devant ces différents bureaux de vote.
Et donc publié par tous les médias, tous les réseaux sociaux.
En tout cas, la primeur doit être réservée à la Commission électorale nationale indépendante.
Oui.
Mais pour besoin de transparence, puisque témoins, observateurs, journalistes et, comme je l'ai dit, les 5 électeurs désignés conformément à la loi sont censés avoir assisté à ce dépouillement, les résultats signés par différents témoins et observateurs, donc signés surtout par différents témoins et le président des bureaux de vote, doivent être publiés et affichés sur ces différents bureaux de vote. Après, le personnel de la CENI va transmettre ses résultats à la centrale. La CENI va compiler ses résultats et commencer à donner différentes tendances avant que les résultats provisoires ne soient proclamé par la Commission électorale nationale indépendante
le 6 janvier,
annoncé par Corneille Nangaa.
Le 6 janvier, c'est bien ça?
Le 6 janvier, justement, comme annoncé par le président de la Commission électorale nationale indépendante.
Oui. Donc, je rappelle que vous êtes à l'écoute de VOA Africa.
D'où l'importance d'avoir des bureaux, des témoins, hein, comme on le rappelait tout le temps, l'importance d'avoir des témoins dans tous les bureaux de vote. Parce qu'un regroupement politique qui a des témoins dans tous les témoins, les bureaux de vote, a plus ou moins une idée des résultats que pourrait avoir soit son ou soit ses candidats, soit son parti politique au soir des élections. Parce que les témoins participent au dépouillement manuel qui se font dans les bureaux de vote.
Oui. Merci beaucoup Thierry. Je disais tout à l'heure que vous êtes à l'écoute de VOA Africa en direct de Washington, édition spéciale sur les élections générales en RDC. Nous avons donc Idriss Fall ici, qui est le rédacteur en chef de VOA Afrique et des spécialistes et experts sur le Congo qui sont en ligne, notamment Maître Joseph Dunia Rienzi, qui est en ligne de la RDC, Mwemba Dizolele, il est professeur d'études africaines à l'université Johns Hopkins ici à Washington, et bien sûr Christian Losakweno, il est directeur de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Alors Idriss, on le voit, hein, ça dit que la CENI a un rôle quand même assez délicat. Les partis analysent chaque mouvement que la CENI fait, chaque geste, chaque décision est décortiqué, interprété différemment, et ça va pas cesser ce soir.
Je sais plus qu'est-ce qui me faisait une blague en disant Corneille Nangaa est beaucoup plus populaire que Joseph Kabila. J'ai dit absolument, parce que c'est lui qui est chargé d'organiser en fait une transition dans un pays qui n'en a presque pas connu depuis son indépendance.
Ouais.
Et que les enjeux sont extrêmement importants. Et moi, je pense que la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, son premier mal, c'est que tout le monde veut mêler son nez dedans. Les États-Unis, les Européens, la Belgique. Et que je pense que il est temps pour un pays indépendant de pouvoir organiser ces élections sans l'ingérence de personne. Parce que quand les États-Unis organisent des élections, on ne demande pas d'observateurs qui viennent du Congo. Je sais que le Sénégal est un pays beaucoup plus petit, beaucoup moins riche que la RDC, mais le problème de la RDC, essentiellement, c'est cette ingérence constante qui vient de l'extérieur. Toutes les guerres qu'il y a eu au Congo, c'est venu de l'extérieur. C'est-à-dire que pour une fois, si les Congolais arrivent à choisir leurs propres dirigeants et que les résultats reflètent leur choix, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un observateur de l'Union européenne pour venir me dire comment on organise des élections au Sénégal. Et pourtant, au Sénégal, ils ont réalisé des alternances politiques. Ils ont renvoyé des chefs d'État.
Alors, professeur Dizolele, votre avis là-dessus?
Ok, très bien. Deux points, en fait. Le premier point, je voudrais, en fait, ne pas être d'accord avec Idriss, c'est que la machine à voter n'est pas derrière nous. Nous n'avons pas encore fait les post-mortem. Nous sommes juste le jour du vote. Donc, on ne peut pas dire si ça a marché, ça n'a pas marché. Nous aurons un recoupement et de la part de la CENI et de la part de toutes les institutions qui observent, tant locales qu'internationales, de la part de la société civile, de la part des électeurs. Donc, c'est très tôt de dire que la machine a voté derrière nous. Moi, je trouve ça, c'est totalement absurde comme déclaration. De deux, c'est vrai, je suis d'accord en principe qu'on ne peut pas compter toujours sur les observateurs internationaux. Mais comparer le Congo au Sénégal, par exemple, le Sénégal a une longue histoire de démocratie. Vous avez connu des dirigeants politiques, vous avez des problèmes comme partout ailleurs, mais vous êtes engagé. Vous avez une armée républicaine qui ne s'ingère pas dans la politique. Donc il y a des éléments qui n'ont rien à voir avec la réalité congolaise. Je suis sûr que les étrangers sont aussi impliqués au Sénégal. Mais il y a une volonté politique locale sénégalaise, tant du côté de l'élite politique, du peuple, de l'armée qui concourt pour faire du Sénégal ce qu'il est. Et le Congo manque ça. Tout à l'heure, on parlait de l'indépendance de la CENI. Et le maître qui est avec nous a bien décrit la situation. C'est-à-dire la CENI elle-même a servi comme une extension du pouvoir et pas comme un élément indépendant. Donc si le Congolais, en principe, si le président Kabila, si nous sommes là où nous sommes, c'est puisque Kabila se comporte de la manière que nous connaissons. Donc on ne peut pas dire tout d'un coup, mais voilà, en principe, on doit les laisser organiser ce qu'ils veulent. Mais non, il y a des violences contre les civils, contre la jeunesse. L'opposition est malmenée. Martin Fallou ne pouvait pas avoir accès à ses supporters dans certaines villes. son avion a été diverti à plusieurs reprises. Donc, ne pouvons pas comparer chou et tomate, je suis désolé, mais en principe, le principe, c'est une chose, la réalité, c'est une autre.
Est-ce que je peux quand même préciser, si je dis la machine à voter, c'est derrière nous, c'était le débat qu'il y avait avant les élections, faut-il y aller avec ou sans la machine à voter, et que ce débat-là, il était animé par un certain Martin Fayoulou. Donc, c'est pourquoi je dis que ça, c'est derrière nous, en sens que ils ont utilisé la machine à voter et que c'est derrière nous. Maintenant, je ne présage de rien du tout de ce que sera le résultat. Il y a peut-être des gens qui ont des appréhensions, comme quoi que, en fait, ceux qui ont voté aujourd'hui, si on nous donne un autre résultat, on va mettre le pays à feu et à sang. Moi, je ne suis pas dedans. Ce que je veux dire, c'est que le Congo, depuis son indépendance, il y a des ingérences étrangères. Depuis que c'est le Congo est indépendant et que je dis, il est temps de faire confiance à l'ensemble de ces millions de gens qui sont sortis aujourd'hui sous la pluie massivement pour aller choisir leur candidat. C'est un élément de maturité politique. C'est pourquoi la première chose que j'ai dite quand j'ai commencé, c'est de dire qu'aujourd'hui c'est une grande victoire pour le peuple congolais. Et que je pense qu'il est temps que les pays africains apprennent à organiser des élections transparentes et crédible, et que les résultats soient respectés comme tout le monde. C'est ça qui m'a fait parler de l'exemple du Sénégal. C'est parce qu'aujourd'hui, les opposants qui s'appellent Félix Tshisekedi, qui s'appellent Martin Fayoulou, qui s'appellent Ramazani Shadary, ce sont des cadres politiques du Congo. Et je pense que c'est seuls les urnes qui pourront décider qui sera le leader du Congo demain. Au lieu de tout le temps appeler l'Union européenne, les Africains vont observer les élections en France ou bien vont venir observer les élections aux États-Unis. C'est ça que je dis que c'est un pas de plus, je pense, vers l'indépendance du Congo. C'est ça que je voulais dire.
Alors, je ne sais pas si le professeur veut ajouter un mot parce qu'il nous reste 3 minutes pour conclure cette émission.
Absolument. Merci. En fait, là, vous avez nuancé, Idriss, et je suis d'accord avec vous. Cette nuance manquait dans votre première déclaration. Donc, moi, je pense que je suis d'accord. Les Africains doivent se prendre au sérieux et organiser des élections qui sont dignes. Si nous sommes forcés par la communauté internationale, les uns et les autres, c'est puisque nous ne sommes pas sérieux.
Donc, on avance. Donc, on est d'accord et on avance ensemble. Que ça aussi, c'est un enjeu pour l'ensemble des États africains, que ce soit la République démocratique du Congo, que ce soit votre voisin de la République du Congo, que ce soit partout sur le continent, parce qu'il n'y a que chez nous, en Afrique, où on voit encore des enfants se faire tuer pour des élections. Alors qu'ici, vous avez vu la passion que l'élection de Hillary Clinton et Donald Trump a dû déchaîner. Vous avez vu les passions qu'il y a en France. Il n'y a que chez nous où des jeunes se font tuer pour des élections.
Alors, on a quelques minutes de la fin, 2 minutes donc de la fin de cette édition. Christian Losakweno, qu'est-ce qu'on peut retenir, votre mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée?
On doit surtout attendre. La polémique est certes une bonne chose, mais on doit surtout attendre ces résultats. On doit espérer que tous les partis auront tous des témoins dans tous les bureaux, comme ils l'ont annoncé, parce que de cette présence partout dépendra l'acceptation par tous de ces résultats. Le Congo n'a pas besoin de beaucoup de choses, il a juste besoin que ses dirigeants soient légitimes et qu'ils puissent remettre sur pied un pays qui mérite beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a eu ces 30 dernières années des soubresauts, des hauts et des bas, mais maintenant on a besoin qu'il n'y ait que des hauts parce que la misère du Congolais a été à l'image de l'effervescence que ces élections ont eue sur eux aujourd'hui.
Merci beaucoup Christian Losakweno. En quelques secondes, Maître Joseph Dunia, votre mot de la fin?
Oui, mon mot de la fin, c'est de dire qu'au regard du calme qui a caractérisé les élections, nous recommandons à ce que le dépouillement se fasse dans la transparence, dans l'honnêteté, afin que ces élections puissent être une solution à la question de la démocratie.
Voilà, on a bien compris votre point de vue, que ces élections puissent être une solution donc pour tous les problèmes du Congo. Merci à tous d'avoir participé à cette édition spéciale. Christian Losakweno, nos correspondants Thierry Kambundi et Abdourahman Dia, notre envoyé spécial, et professeur Dizolele ici à Washington. Merci.
VOA Afrique.